Bonjour, vous êtes sur Radio B, la radio des bonnes ondes, 90.0 dans l'émission Musique au pluriel, animée par Bruno Point et Paul Turchet. Nous consacrons notre émission aujourd'hui à un immense compositeur. Ils sont tous immenses quelque part dans leur spécificité, mais il s'agit de Georg Friedrich Händel, dont on dit qu'il a scellé la fin du baroque et son apogée. Né en 1685 et mort en 1759, un musicien cosmopolite, nous pourrions dire, qui a unifié l'Europe baroque, puisque chaque pays avait en fait sa musique baroque, la France, l'Italie, l'Allemagne bien sûr, avec Bach, et puis aussi l'Angleterre avec l'immense Purcell. Friedrich Händel, lui, a réalisé cette sorte d'exploit synthétique d'unifier dans son style tous ces styles de musique particuliers. Il a connu les grands compositeurs allemands de son pays, puisqu'il est né en Saxe, Telemann, Froberger, Buxtehude, Bach, et puis il a connu la musique française, et puis il a passé plusieurs années en Italie, où il a connu les grands compositeurs italiens, Scarlatti, Vivaldi, etc. Et puis il a fini une grande partie de sa vie en Angleterre, où il est devenu le musicien, après la mort de Purcell, le musicien anglais le plus connu. Il a composé, bien entendu, pour les royautés successives, et d'ailleurs il est mort en Angleterre, enterré à Westminster. Donc c'est cette synthèse de toutes les musiques baroques d'Europe que Georg Friedrich Händel est parvenu à faire. La souplesse, la mélodie italienne, la rigueur allemande, le faste anglais, et puis la grâce et la délicatesse française. Voilà, quelqu'un qui fut admiré, bien entendu, de grands compositeurs, et Bruno nous en parlera. J'annonce dès à présent un extrait d'une de ses œuvres très célèbres, le Messie de Händel, et l'Alléluia.
Thank you. George Friedrich Händel est né en 1685 en Saxe, qui deviendra le royaume de Prusse. 1685, année heureuse s'il en est, puisque à quelques semaines d'intervalle sont nés ceux qui sont probablement les deux plus grands musiciens de cette époque, à savoir Händel et Bach. Bach et Händel, qui d'ailleurs ne se connaîtront pratiquement pas, ou nous pensons qu'ils se sont croisés, mais ils auront des itinéraires totalement différents, alors qu'il y a beaucoup de points communs, ainsi que des divergences, mais néanmoins beaucoup de points communs dans leur parcours musical. Ils sont aussi obstinés et totalement doués l'un que l'autre. Ils pratiqueront, et c'est normal, les instruments de l'époque, à savoir l'orgue et le clavecin notamment, mais aussi le violon. Ils auront tous les deux à lutter contre l'adversité, contre les gens qui leur permettent de jouer, à savoir leurs protecteurs. Ils auront à s'imposer d'une manière différente. Mais tous les deux vont laisser un domaine musical absolument considérable. Nous allons découvrir que le père de Händel ne souhaitait absolument pas qu'il fasse de la musique. Il était quant à lui médecin après avoir démarré comme apprenti chez un chirurgien barbier. C'était ainsi que le travail à l'époque s'exerçait. Il était médecin à la cour de Saxe. C'est ce qui a permis d'ailleurs à Händel, son fils, de pouvoir continuer la musique, car le protecteur, à savoir le duc de Saxe, l'électeur de Saxe, avait entendu le jeune Händel et avait conseillé à son père de ne pas s'opposer à ses talents musicaux. Il eut ainsi la chance de rencontrer un excellent professeur, à savoir Zachoff, qui lui a appris l'orgue, le clavecin, le violon, le contrepoint, la composition, et il a pu ainsi démarrer son parcours musical. Nous écouterons d'ailleurs, pour illustrer ce talent à l'orgue, puisque c'était un très grand organiste, un concerto pour orgue du jeune Händel.
Thank you.
de 1703 à 1706. Händel réside à Hambourg. Il commence à s'installer dans la vie comme musicien. Il abandonne l'idée paternelle de se consacrer à la basoche, c'est-à-dire au droit, parce qu'il a de tels dons qu'évidemment, tout le monde dit à son père, ce n'est pas possible de ne pas le consacrer à la musique, ce garçon. Il est donc violoniste, il a une grande amitié avec Johann Mattheson, qui est un musicien connu de l'époque, qui est un grand pédagogue, qui, voilà, ils vont se brouiller et même s'affronter en duel. Ils vont presque s'exterminer, mais ils vont renouer leur amitié. Et puis, ils profitent de cette courte période pour travailler sérieusement les grands allemands. Buxtehude, dont l'œuvre d'orgue est absolument sublime. Telemann, bien sûr, qui est un ami d'ailleurs de Bach. Et puis, Händel va étudier l'œuvre de son contemporain, de son collègue Bach, qui, rappelons-le, meurt en 1750, et puis Händel en 1759. Donc, ils ont toute une période de composition, faite en Allemagne. Il compose son premier opéra, Almira, et puis surtout, il va en Italie, où là, pendant 3 ans, de 1706 à 1710, il va rencontrer de grands compositeurs italiens, Lotti, Vivaldi, Albinoni, Scarlatti et d'autres, il va s'initier bien sûr à la musique baroque italienne. Il va composer pour l'Italie un opéra, Rodrigo. Il va parcourir toute l'Italie, Florence, Rome, Naples, Venise, et comme je le disais en introduction, il va, on va dire, synthétiser dans son propre style, et c'est ça le génie, c'est de s'approprier le passé ou le présent, et puis de l'exploiter sous sa propre forme, avec son propre génie, et sa propre imagination et son propre style. Donc voilà, il va être très bien reçu en Italie, et il va revenir ensuite à Hanovre un certain temps, bourré, si je puis dire, de musique italienne plein le cerveau.
Dixit, 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 Dix
Nous venons d'écouter le Dixit Dominus de Haendel, œuvre d'un jeune compositeur, il avait 22 ans, qu'il a donc écrit en Italie et qui lui a entre autres permis de s'imposer dans ce pays. Nous verrons que Haendel s'est imposé partout où il était. Il s'est imposé évidemment par son talent, son génie, mais aussi par son obstination et puis par la certitude qu'il avait de la qualité de sa musique et qu'il faisait, qu'il s'impliquait et qu'il faisait tout pour pouvoir exprimer son talent, pour pouvoir imposer ses œuvres et les faire écouter. Nous avons là un cas d'un homme qui était conscient de son génie et qui, à force de travail, s'imposait et à force de relations sociales au sens noble du terme, c'est-à-dire qu'il savait jouer de son talent, de sa séduction, pour pouvoir promouvoir ses œuvres et faire son travail. Cet homme a été parfaitement reconnu dans toute l'histoire de la musique. Le nombre de citations que l'on trouve auprès des plus grands musiciens est considérable. Haendel est notre maître à tous, dit Haendel. Je suis en train de me faire une collection des fugues de Haendel, dit Mozart. Pour Liszt, Haendel est grand comme le monde. Pour Beethoven, Haendel est le plus grand des musiciens et la vérité est qu'il voudrait s'agenouiller sur sa tombe. Nous voyons donc là que son talent, sa présence dans l'histoire de la musique est considérable. Nous allons maintenant écouter la Sarabande, œuvre très connue de Haendel.
Après avoir été maître de chapelle à Hanovre de 1710 à 1712, donc sur une période courte, pendant laquelle déjà il fera un premier voyage à Londres, Purcell, le grand musicien anglais, est mort en 1795 et Handel va s'expatrier. Il aura d'ailleurs la nationalité anglaise. Il va s'expatrier à partir de 1712 jusqu'à la fin de sa vie, ce qui est considérable, donc en 1759, pendant une période, j'allais dire, immense, évidemment, de sa vie. Et là, c'est une explosion de composition. Il va faire des opéras, et ces grands opéras, Jules César, Tamerlan, Rodelinda, Alessandro, Orlando, Ariodante de 1724 à 1734. Il fera ce grand oratorio, Israël en Égypte. Il sera, j'allais dire, le grand directeur d'Académie royale, et première Académie royale, 1720 à 1729. Deuxième Académie, 1730-33. Troisième Académie, et puis il composera, après quelques déboires à l'opéra, qui sont difficiles à monter, évidemment, c'est très délicat et difficile, et il va se consacrer à la composition d'oratorio, on dira que ce seront les oratorios anglais de Handel. Et il va synthétiser dans ce style l'opéra et l'oratorio italien, et l'opéra et l'oratorio anglais. Grands oratorios entre 1741 et 1749. Donc j'annonce cette fois, évidemment, Water Music, la musique sur l'eau. On pense à la Tamise, qui c'est la deuxième suite de Water Music qu'il a composée, œuvre également extrêmement connue et quelque part impérissable. Thank you.
En Angleterre, Handel écrira plus de 30 opéras. Ces 30 opéras seront suivis par des oratorios. Ce qui différencie l'opéra de l'oratorio, c'est que l'oratorio n'a pas de mise en scène, pas de costume. Le déroulé de l'histoire se passe avec des solistes, avec l'orchestre, avec des chanteurs qui sont face au public sans que la pièce de théâtre ne soit menée. Ce qui d'ailleurs expliquera que Handel y viendra, car l'opéra c'est quelque chose de très cher, il faut mettre en scène, il faut des costumes, il faut des décors. L'oratorio coûte beaucoup moins cher. Néanmoins, Handel commencera sa carrière en Angleterre avec des opéras. À noter qu'à l'époque, comme d'ailleurs en France plus tard, comme d'ailleurs en Italie aussi, l'opéra était très prisé et faisait l'objet d'une faveur du public qui s'enthousiasmait pour cet art qui était du théâtre chanté. Le premier opéra de Handel s'intitule Rinaldo. Vous allez écouter pour commencer un air absolument sublime que l'on pourrait presque qualifier et qui se révéla à l'époque de ce que l'on appelle maintenant un tube, à savoir un morceau de musique qui a été parfaitement calibré pour séduire le public, mais qui n'empêche que le talent et le génie de Handel est là, et nous allons écouter une mélodie absolument magnifique.
Thank you.
autre très grand succès de Handel fut son opéra Jules César en Égypte. Le Jules César en Égypte retrace l'arrivée de César qui poursuit Pompée en Égypte. Et Pompée est donc son ennemi. Or, Ptolémée, le roi des Égyptiens, croyant bien faire, tue Pompée et offre sa tête à César. C'était mal pensé parce que César, d'abord, est profondément vexé que la justice ne soit pas rendue que par lui, et va au contraire se lier d'une histoire d'amour avec Cléopâtre. Nous aurons donc dans cet opéra les personnes de César et de Cléopâtre. Et l'opéra se termine par le triomphe de César et de Cléopâtre à Alexandrie, et Ptolémée ayant été tué, lui, par Sextus. Nous allons écouter deux très 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 beaux airs, à croire que je privilégie les airs où existe le mot pleurer, puisque le précédent dans Rinaldo, c'était « Laisse-moi pleurer », et là, c'est à nouveau des larmes. En tout cas, ce sont des morceaux de musique extrêmement émouvants. Donc nous allons écouter, là, à la suite de ma présentation, deux morceaux extraits de Jules César.
Thank you.
Après les grands oratorios qu'il compose de 1741 environ à 1749, nous abordons la fin de la vie de Haendel, la fin de sa vie, puisque Haendel meurt le 14 avril 1759. Il sera enterré à l'abbaye de Westminster après avoir été naturalisé anglais, et il composera à la fin de sa vie, des musiques, notamment musique pour les feux d'artifice royaux en 1749, qui sont tout à fait beaux parce qu'ils sont pleins de vie, ils sont pleins de surprises, de rythmes propres au baroque qui vous saisissent avec des timbales, des cuivres. Enfin, c'est vraiment un feu, ce sont des feux d'artifice, effectivement, en version musicale. Et il aura réussi, parce que Bruno vous a dit quelle admiration avait attiré sur lui Haendel, une admiration, j'allais dire, universelle des grands musiciens, des grands compositeurs qui le suivront et qui le vénéreront quelque part. Il aura réussi à boucler, si l'on peut dire, la période baroque. Et de quelle manière ? et puis à ouvrir ensuite, bien entendu, s'ouvrira le classicisme, puis le romantisme. Voilà, donc une synthèse parfaite de l'Italie, de la France, de l'Allemagne et de l'Angleterre. J'annonce maintenant, pour finir, un extrait transcrit pour le piano d'un menuet de Handel qui est très connu, joué par l'excellente Anne Kefelec, pianiste française, œuvre qu'elle joue très souvent en bis. C'est très beau.
Nous avons écouté au cours de cette émission l'Alléluia du Messie de Handel par le chœur Monteverdi et l'English Baroque soliste dirigé par John Elliott Gardiner, puis un concerto pour orgue, un largo, par Peter Urford et le Concertgebouw Chamber Orchestra dirigé par Joshua Rifkin. Ensuite, le Dixit Dominus par le Symphony Orchestra, dirigé par Emmanuel Haïm. Ensuite, la Sarabande, jouée par le City of Prague Philharmonie Orchestra, dirigé par Paul Batman. Puis, la Water Music, la suite numéro 2, par le Blazer Ensemble. Ensuite, Marilyn Horn nous a chanté La Chia Chio Piango, Laisse-moi pleurer, de Rinaldo, suivi de deux airs magnifiques de Jules César, l'un chanté par Charlotte Elecante et Anne-Sophie Vonnoteur, et le suivant par Magdalena Kozena et les musiciens du Louvre, dans les deux cas, dirigé par Marc Minkowski. Eh bien, bonne rentrée et bon mois de septembre, et nous vous retrouverons au mois d'octobre. À bientôt de la part de Paul et Bruno.